On n'a pas l'habitude de voir et ils sont toujours perdus.
D'accord, c'est prévu.
Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. L'Évangile se présente à nous comme une urgence et nous avons trop souvent tendance à nous assoupir dans les habitudes de notre quotidien, à devenir paresseux de notre quête de vérité et à nous courber devant les fatalités de notre vie et de notre monde. Aujourd'hui, nous voulons prendre le temps de la veille, de l'écoute attentive de l'Évangile. Nous voulons prendre le temps de la prière, du dialogue, du face-à-face avec Dieu. Nous voulons prendre le temps de la halte, afin de trouver la force nécessaire pour nous tenir debout, adultes et responsables, devant Dieu et devant les humains, au nom de l'Évangile de Jésus-Christ. Je vous invite à vous lever. Ô Dieu qui nous soutient, nous encourage et nous donne la paix, sois au milieu de nous. Amen. Nous chantons le premier cantique dans le petit livret qui se trouve au début du psautier. Nous voici rassemblés en ton nom. Nous louons Dieu avec le psaume 103. Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Il n'est pas pour toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes et nous rend pas selon nos offenses. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met loin de nous nos péchés. Et je vous invite à chanter le 45-10, page 691, j'ai soif de ta présence. Bienvenue dans ce temple pour ce temps de culte, que vous soyez des habitués, des occasionnels ou simplement de passage, ou que vous veniez par hasard. Aujourd'hui, c'est un culte un peu particulier, enfin pas vraiment, mais, enfin si, mais non. Enfin vrai, vous voyez, on a décidé que ce sera un culte de réveil de l'orgue. Alors c'est comme à Versailles, du temps de Louis XIV, il y avait le petit et le grand lever du roi. Là, c'est le petit réveil de l'orgue. Il y aura un grand réveil au moment de la semaine Happy Back. Tout bientôt, donc. Voilà. Je vous invite à placer votre vie, notre vie, sous le regard de Dieu. Sans culpabilité, mais sans complaisance non plus. Nous prions. Seigneur, qui nous connais tels que nous sommes, pardonne-nous quand nous refusons de voir ce que nous sommes. Seigneur, qui nous accueille tels que nous sommes, pardonne-nous lorsque nous refusons d'accepter ce que nous sommes. Seigneur, qui nous invite à te suivre tel que nous sommes, pardonne-nous quand nous cherchons à nous changer nous-mêmes au lieu d'avancer à ta suite. Nous restons assis pour chanter le deuxième chant, enfin, sur le livret, Jésus le Christ, lumière intérieure. Frères et sœurs, Dieu pose sur son Église et sur chacune et chacun d'entre nous un regard de tendresse. Il veut que nous allions de l'avant, malgré nos craintes et nos doutes, en nous libérant de notre passé par ses souffrances et sa mort, il nous ouvre l'avenir. Dieu rend vraiment libres ceux qui mettent leur espérance en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter « Tu consoles, tu pardonnes ». Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous demande et nous donne la force de faire. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Vous vous abuseriez. Celui qui écoute la parole sans la pratiquer ressemble à un homme qui s'observe dans un miroir, puis s'en va et oublie comment il était. Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s'y attache, non comme un auditeur distrait, mais pour la pratiquer en acte, celui-là est heureux. Transmet la nouvelle. Prenez place. Deux lectures pour ce matin. On m'entend dans ce micro ? Oui, ça marche, d'accord. Deux lectures pour ce matin. La première sera dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20. Et la seconde sera le psaume 150. Avant d'écouter, nous prions. C'est un passage du prophète Ésaïe. Ce matin, le Seigneur éveille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.
Bonjour, donc c'est dans l'Acte des Apôtres, chapitre 20, de 7 à 12. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour. Après quoi il partit, le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Psaume 150. Louez l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans son firmament glorieux. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon sa grandeur infinie. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lyre et la harpe. Louez-le avec le tambourin et les danses. Louez-le avec les instruments à cordes et la flûte. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel.
Écoute, entends la voix de Dieu. Quand on m'a annoncé qu'il faudrait faire un culte de réveil de l'orgue, j'ai commencé par trouver ça un peu étrange comme concept. Puis je me suis posé cette question qui finalement a présidé la plupart des choix importants de ma vie. Pourquoi pas ? Le problème, vous vous en doutez, c'est que l'orgue n'est pas un instrument biblique. Oh, il y a bien la traduction par Théodore de Bèze, du psaume 150. Nous le chanterons tout à l'heure. Il a bien cette traduction « Que pour lui, les orgues chantent ». Bon, on affirmera que c'est au mieux une licence poétique, au pire un anachronisme. Mais il faut dire que les allusions aux instruments de musique sont légion dans la Bible, mais qu'on doit souvent déduire, pour ne pas dire deviner, ce qui se cache derrière les mots hébreux. Dans le doute, les réformateurs, en tout cas selon mon prof de théologie pratique, les préconisaient le seul instrument clairement attesté dans la Bible. Ah, non mais l'instrument, alors la voix c'est vrai que c'est une bonne réponse, mais parce que la harpe c'est une traduction d'un instrument à six cordes. Non, c'est la trompette, évidemment. La trompette de Jéricho, enfin voilà. Alors je ne sais pas si vous voulez détruire les temples, enfin bon, ce n'est pas le sujet. Bref, je ne sais plus ce que je disais, c'est bravo. Voilà la trompette. On se méfiait de l'orgue, trop riche, trop imposant, trop décoré, souvent un signe extérieur de richesse de l'Église, ou démonstration de la générosité d'un donateur, et qui surtout avait tendance à écraser de son son puissant le chant de l'Assemblée. Oui, à la Réforme, grande révolution, les cantiques sortent du domaine réservé des clercs pour s'offrir à l'Assemblée des fidèles. Il serait alors dommage que leur voix soit écrasée par le son d'orgue pas toujours bien accordé, contrairement au nôtre, donc, désormais. Donc, un culte de réveil de l'orgue. Il faudra bien sûr, me suis-je dit, que ce soit un culte rendu à Dieu, et pas à l'orgue. Et donc, forcément, c'est poser la question, finalement, c'est quoi un culte ? On peut répondre à cette question de façon technique, comme on l'a fait dans notre rencontre à la formation des prédicateurs. Mais qu'en dit la Bible ? C'est important pour nous, protestants, luthéraux, réformés, de savoir ce que dit la Bible des célébrations. Il y a, bien sûr, dans le livre, des descriptions pour des célébrations particulières, la consécration du temple, des fêtes de sacrifices. Mais il faut avouer assez peu de descriptions d'un culte ordinaire. Et rien du tout à propos d'un réveil de l'orgue. Alors, le psaume 150 s'est imposé à moi, et quand j'ai posé la question à Marie-Vonne, elle m'a aussi spontanément suggéré ce psaume, ce même psaume 150, on va donc considérer que c'est un signe. Donc, vous avez eu le droit au psaume 150, qui se trouve être le dernier du livre des psaumes. Il le conclut d'ailleurs assez heureusement, puisqu'il évoque les différentes manières de louer Dieu. Il commence par inviter à louer le Seigneur, puis il liste les lieux où on peut le faire, les raisons pour lesquelles on peut le faire et les façons dont on peut le faire. Alors bien sûr, il ne faut pas tenir ces listes pour exhaustives, mais cela fait ressortir une diversité des lieux, des raisons et des méthodes. Et après avoir évoqué où, pourquoi et comment, il s'achève en évoquant qui ? La réponse, tout ce qui respire, tout ce qui vit. Et puisque c'est le comment qui nous intéresse aujourd'hui, nous pouvons remarquer la liste variée des instruments, dont la plupart, je le rappelle, sont à deviner, au rang desquels figure notablement le corps, puisqu'est évoquée la danse. Un culte n'est pas seulement un événement cérébral, mais aussi corporel. La danse, dans le culte, il est vrai, ne fait pas tout à fait partie de nos traditions et habitudes occidentales et réformées. Bon, je sais même qu'il y a parmi nous des personnes qui n'aiment pas, voire que cela dérange, quand lors des chants, l'assemblée bat des mains. Je ne le reproche pas, chacun ses goûts, chacun sa sensibilité, et je ne chercherai même pas à les convaincre du bien fondé de cette pratique. Mais je fais juste remarquer que ce n'est pas bibliquement prohibé, ni d'ailleurs obligatoire. Bon. Donc le psaume 150 s'est imposé à moi et je me suis encore interrogé, a-t-on des exemples de culte dans la Bible ? Il y a bien Jésus à la synagogue au début de son ministère, mais à part la lecture du prophète Ésaïe et la prédication sans doute la plus courte de l'histoire de l'humanité, on n'a guère de description utile à l'élaboration d'un culte. J'ai alors pensé à l'incident d'Eutychus dans le livre des Actes. Parce que si Jésus avait été bref dans sa prédication, je vous la redis en entier, ça ne prend pas de place, hein, aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous voyez, c'est vraiment court. Celle de Paul, elle, en revanche, se trouva être longue, extrêmement longue, et à en croire la Bible, mortellement ennuyeuse. Je me suis persuadé qu'il y a dans ce récit une petite pointe d'humour contre la tendance de Paul à trop parler et à tout vouloir régler, à tout vouloir régenter. Même la conclusion prête à sourire. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Une consolation de quoi, puisqu'il n'était pas mort ? Une consolation peut-être à la prédication interminable de Paul, allez savoir. Nous nous sommes tous un jour surpris à espérer qu'un incident vienne mettre fin à une prédication, une conférence ou un discours, sans souhaiter la mort de qui que ce soit. Mais là, ça n'a même pas suffi. Paul s'est brièvement interrompu, a dit « tout va bien » et a repris son enseignement. Et on ne retient généralement de cet épisode que le miracle du retour à la vie. Mais il y a sans doute un enseignement à tirer pour les prédicateurs. On se dit qu'un discours moins long ou que la présence de cantiques, voire d'un orgue bien sonore, aurait pu éviter l'assoupissement et la chute de Tychus. Paul devait partir et avait tant de choses à dire. Mais que retiendront les gens ? Le miracle. Ironie biblique sans doute, même Luc, l'auteur du récit, ne relate aucun mot du discours qui a pourtant duré toute la nuit. Pour être honnête, ou pas trop charger Paul non plus, on peut retenir à sa décharge que Tychus avait sans doute derrière lui déjà une journée de travail, que la fumée des lampes pouvait faire tourner la tête et que les considérations de Paul pouvaient passer un peu au-dessus des attentes du jeune homme. Mais dans ce récit, le culte se résume à un enseignement et un repas partagé. La première phrase lue donne même le ton. Le premier jour de la semaine, donc le dimanche, nous étions réunis pour rompre le pain. Ce qui fonde le culte, c'est le partage. Mais quel est le but ? Le culte a-t-il seulement un but ? Rendre grâce à Dieu, soit, mais à qui est-ce profitable ? À Dieu ? À nous ? Depuis quelques mois, une question vient de temps à autre me hanter. Quand je vais au culte, comme membre de l'assemblée, pas comme prédicateur, est-ce un acte de pure gratuité ou suis-je en droit d'espérer en tirer un bénéfice personnel ? Par bénéfice personnel, j'entends bien évidemment sur le plan spirituel, moral ou intellectuel. Chaque fois que je soutiens l'une de ces deux alternatives, enfin l'un des deux termes de cette alternative, pure gratuité ou légitime attente, je suis contredit par mon interlocuteur et je change d'avis. Une vraie girouette. Impossible de me faire une opinion et de m'y tenir. C'est peut-être qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Le culte est une aporie, une contradiction irrésoluble. Il ne doit être ni utile, ni inutile, ni être obligatoire, ni être facultatif. Ou alors, au contraire, il doit être à la fois utile et inutile, obligatoire et facultatif. Débrouillez-vous avec ça. De même, on est en droit de s'attendre à la grâce de Dieu, alors qu'elle n'est pas due, qu'elle est un acte qui relève de la pure, du pur arbitraire de Dieu. Nous sommes dans cette question. Vais-je au culte pour recevoir ? Mais alors, ce n'est plus un acte gratuit, ou vais-je au culte par pure gratuité, mais alors est-ce que je n'en attends rien ? Ainsi, les participants à la réunion de Paul repartiront transformés par ce qu'ils y ont vécu, surtout au Tychus, j'imagine. Mais ce ne sera certainement ni ce à quoi ils s'attendaient, ni ce qu'avait prévu Paul. Eutychus, quant à lui, sera mort et revenu à la vie comme ça, sans doute sans rien y comprendre. Mais ce n'est pas là le sens, mais n'est-ce pas là le sens même d'une expérience spirituelle ? Mourir à la mort et ressusciter à la vie. Les paroles de Paul, tout intelligentes et profondes qu'elles pouvaient être, furent cause de mort. Mais la grâce de Dieu les transforma en puissance de vie. Paul fit sans doute de son mieux, mais il ne fut pour rien dans ce miracle, sinon son occasion. Il est temps pour moi de conclure avant que vous ne tombiez de votre banc, à défaut de la fenêtre, et je vous invite donc, tant que vous remplissez les conditions, à louer Dieu. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je vous invite à chanter le psaume 150, page 168. Donc, psaume 150, page 168. Il va être, comme je ne suis pas sûr qu'il soit très connu, il va d'abord être joué une première fois à l'orgue, à Blanc. Et nous chanterons donc sur la reprise. Nous restons debout pour dire ensemble la confession de foi que vous trouverez à la fin du cantique. Nous disons la numéro 3 qui commence par Dieu est amour. Dieu est amour, par amour notre Père a créé le monde. Son Fils Jésus-Christ est mort et ressuscité pour que l'amour naisse au cœur de l'humanité. Son esprit nous rend responsables et libres pour vivre cet amour. Nous croyons que Dieu nous appelle aujourd'hui, comme chaque jour, à répondre à son amour. Dans l'Église, comme artisans de vérité et pardon, parmi les hommes et les femmes, comme artisans de justice et de paix, dans le royaume qui vient, comme témoins de sa fidélité, Dieu est amour, c'est ce que nous croyons. Amen. Chaque jour de ma vie. Prenez place. L'apôtre dit dans la première épître aux Corinthiens que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu épargner. Nous offrons maintenant nos dons pour le service de l'Église. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Quelques annonces et nouvelles. Marie-Yvonne, ce serait bien que tu viennes dire quelques mots à propos de la PIBAC.
Bonjour à chacun. Merci à Agnès et Mélanie qui nous ont accueillis ce matin. Et merci à Mathieu qui a réveillé l'orgue.
Et nous aussi, du coup.
Et nous aussi, en chantant. Et puis Vincent pour cette belle prédication. Pour l'orgue, on peut dire aussi merci à ceux qui ont déjà donné pour qu'il soit restauré, et puis à tous ceux qui ont confectionné les repas, accueilli les facteurs, voilà. Les facteurs d'orgue, bien entendu. C'est la semaine qui vient de se passer, je fais un petit retour. Moi, j'ai été heureux de voir qu'il y avait des nouvelles personnes à l'étude biblique, au partage biblique œcuménique. Donc, moi, je trouve ça réjouissant. Donc, n'hésitez pas à venir à nous rejoindre. Cette semaine, ben, c'est plus calme. Il y a juste deux choses. Déjà une chose en moins, c'est-à-dire que mardi, il n'y aura pas la prière le matin parce que c'est le temps de vacances et ceux qui viennent, ils sont en vacances. Sinon, le soir, il y a la chorale à 19h15 et mercredi, il y a la prière à 18h. Voilà, je vous rappelle encore le voyage en Italie. Il y a Monique et Richard qui sont là, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour vous inscrire. Bientôt, dans trois semaines, il y a l'Assemblée générale de notre paroisse. Donc là, on est en train de finaliser le rapport d'activité et le rapport financier. Donc vous allez les recevoir par mail pour ceux qui ont un mail. Et il sera aussi à votre disposition au secrétariat pour ceux qui le veulent en papier. Et sinon, à la sortie du culte, Monique est là avec les nouvelles. Donc, N'oubliez pas de récupérer votre exemplaire de nouvelles en sortant pour ceux qui ont la formule papier. Voilà.
Est-ce que pas quelqu'un parmi vous s'appelle Patrice Trusson ? Non. Est-ce que quelqu'un voit qui est Patrice Trusson ? Parce que sa maman m'a contacté en disant qu'il fréquentait le temple. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit notre église à nous, mais et ce monsieur aurait disparu. Donc, personne ne voit qui c'est. Non. Bah,
de... bon, suite alors.
Je pense que c'est trompé d'église, mais... Oui.
Bonjour, ça fait à peu près 15 mois avec Mathieu, au travers d'une discussion, on s'était dit pourquoi pas fêter les 340 ans de la naissance de Bach ici. Donc ça fait 15 mois que je vous en parle un petit peu et c'est dans un mois. Voilà, donc du 19 au 23 mars, il va y avoir nombre de concerts, animations, etc. entre le conservatoire, la cathédrale et beaucoup ici au temple. Donc au temple, ce sera surtout le vendredi soir, le samedi à partir de 18h et le dimanche toute la journée. Donc le vendredi soir, une audition de la classe de clavecin et d'orgue du conservatoire à 18h, suivie à 20h d'un concert du groupe vocal Accords et Dissonance. Le samedi à 18h, un concert organisé par le conservatoire avec le chœur du conservatoire, des choristes invités et puis l'orchestre des grands élèves du conservatoire, suivi à 20h30 d'un deuxième concert. Et le dimanche 23 mars, un culte musical avec à la baguette Vincent pour le côté spirituel et Mathieu pour le côté musical, et suivi à 16h d'un goûter, parce que qui dit anniversaire dit gâteau, et à 17h d'un concert de clôture. Donc j'espère que vous serez nombreux à participer à tout ça, où la plupart des événements sont en entrée libre, alors sortie payante, mais entrée libre. Voilà, et en fait, je suis dans le hall, parce que s'il y a vraiment des personnes qui ont envie de venir prêter main forte, ne serait-ce que pour accueillir les personnes au moment où elles rentrent, les spectateurs qu'on espère nombreux, pour aussi me donner d'autres idées ou même pour faire des gâteaux pour le dimanche, parce que goûter d'anniversaire, c'est gâteau, pop-corn, barbapapa. Voilà, si vous avez aussi emmené des trucs, je serai dans le hall et puis moi, c'est avec plaisir que vous pouvez me dire j'ai envie de faire ci, vous avez envie de faire ça. Voilà.
J'ai une question. On m'a posé une question, c'est qu'il y a un des concerts qui est payant.
Oui.
Et est-ce qu'il faut acheter un billet avant? Et si oui, où? Ou c'est en entrant qu'on le prend?
Le seul concert payant est donc le concert du samedi 18h ici, qui est un concert organisé entièrement par le conservatoire. Donc, pour être sûr d'avoir une place, parce que malgré tout, il n'y a que 300 places ici, le mieux est de soit vous rendre au conservatoire, soit de vous rendre sur le site du conservatoire où il y a un petit onglet billetterie. Mais il y aura aussi des places, j'imagine, pour les supposées restantes ici en vente, le samedi. Mais le mieux est de prendre vos dispositions.
Unissons-nous dans la prière d'intercession. Ô Seigneur notre Dieu, si tu juges mon cœur digne de toi, comme la maison qui t'accueille, alors je peux reconsidérer mon existence. Et ma personne. En effet, tu les éclaires d'un lustre tout nouveau, et tu les habites d'un bien plus grand et tu les habites d'un bien plus grand honneur. Tu m'y accueilles joyeux, même prêt à m'y servir. Ta présence me redonne vie, autant qu'elle me nettoie. Elle nettoie mes doutes et mes hontes aussi. Ô Dieu magnifique, grâce à toi, je peux m'accueillir chez moi. Et du coup, il y a de la place pour d'autres, tous ceux dont je me méfie ou dont j'ai peur du jugement. Alors, Seigneur, je te le demande, comme tu m'accueilles, donne-moi de les accueillir, d'accueillir leurs forces qui peuvent servir le monde, d'accueillir leurs faiblesses qui, trop souvent, m'énervent ou m'inquiètent. Il y a aussi de la place pour ceux qui souffrent, pour ceux qui peinent et pour ceux qui ploient. De la place pour les malvenus de partout, les exclus de toujours et les isolés de chez nous. Ô Dieu, que cette maison que tu as trouvée assez bien pour toi serve vraiment à l'avance de ton règne. Ainsi, dans cette espérance, nous te demandons dans le nom de ton Fils, lui qui nous a enseigné à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. » Je vous invite à vous lever pour la bénédiction et pour le chant final. Ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu, ce que votre voix a chanté, ce que votre cœur a prié, ce que vos mains ont partagé, ne le gardez pas pour vous. Mais allez dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver, qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il est dans la parole et la bénédiction pour nous. Il est miséricorde et pardon. Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la rencontre et de la générosité vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de la musique et des couleurs, des parfums et des saveurs vous bénisse et vous garde. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche à tous.
Bon dimanche.